Bonjour à tous. Mardi dernier, nous vous révélions qu'un bateau entretenu par une entreprise française participait bien au blocus mis en place au large du Yémen. Mais nous allons voir qu'il existe d'autres pays où du matériel vendu par la France est utilisé dans des conditions qui posent également problème. Bonjour Abdelhakel Idrissi.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer que c'est le cas notamment en Égypte et au Cameroun. Nous parlerons ensuite des sujets qui fâchent avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Jacques Monin.
Et puis nous recevrons Caroline Michel-Aguirre. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous venez de publier La Syndicaliste, un livre qui retrace l'étrange histoire de cet employé d'Areva qu'on avait retrouvé ligoté et mutilé et qu'on a ensuite accusé d'avoir simulé son agression.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Je voudrais mettre un terme à une fiction. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. Toute vente d'armes est interdite, sauf autorisation expresse.
Voilà, c'était Florence Parly, la ministre des Armées, devant les députés, expliquant qu'on ne vend pas du matériel militaire à n'importe qui, n'importe comment. Et il est vrai que chaque exportation, on va le voir, fait l'objet d'une autorisation particulière. Maintenant, est-ce que ce matériel n'est pas parfois utilisé à d'autres fins qu'un usage strictement militaire? Et contrôle-t-on vraiment ce qui se passe après les ventes? Bien, on va voir que non. Mais d'abord, Abdelhakel Idrissi, expliquez-nous les informations que vous allez nous révéler. Comment vous les avez découvertes?
Eh bien, en fait, pour arriver à identifier où et comment le matériel militaire français est utilisé, on a visionné des heures de vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Certaines de ces vidéos étaient des vidéos de propagande, mais en les examinant de près, on a pu reconnaître le matériel qui était utilisé. Et en croisant ces images avec d'autres sources, satellites par exemple, on a pu localiser des équipements militaires. C'est ainsi qu'on a pu repérer les frégates françaises qui opéraient au large du Yémen, en analysant leur forme, leur numéro de série, puis leur localisation.
Alors ça, c'est pour la méthode, Abdelhak, mais pourquoi avoir travaillé plus précisément sur la question des armes?
Alors ça, à l'origine, c'est une initiative de Lighthouse Reports, un collectif de journalistes néerlandais qui a proposé un atelier de travail avec Disclose, dont nous sommes partenaires avec Arte et Mediapart. Écoutez Ludo Ekman, qui est journaliste d'investigation au sein de ce collectif. Il nous explique comment il en est venu à s'intéresser plus particulièrement à ce sujet.
Tout a commencé quand on s'est rendu compte que certains des plus grands exportateurs d'armes du monde étaient européens. En Europe, on a des règles claires sur lesquelles les pays se sont mis d'accord pour pratiquer un commerce des armes responsable. Mais nous avons découvert qu'une fois que les armes sont expédiées vers un autre pays, personne ne vérifie où elles finissent vraiment.
Personne ne suit ses armes, donc finalement vous avez fait ce boulot-là, quoi.
Oui, pour certaines d'entre elles en tout cas. Et pour ça, on a d'abord travaillé à partir de rapports français qui détaillent quels sont les pays clients de la France. On n'a plus eu ensuite qu'à récupérer des vidéos en provenance de ces pays et à les examiner.
Et c'est comme ça, Abdelhak, que vous vous êtes plus particulièrement intéressé à l'Égypte.
Oui, un pays qui pose particulièrement problème parce qu'il est dirigé d'une main de fer par le maréchal Al-Sissi, qui avait conduit la répression contre des manifestants pro-Morsi, l'ancien président islamiste. Mais il y a une autre chose qui inquiète particulièrement les ONG, c'est ce qui se passe dans la région du Sinaï, où, officiellement, l'armée égyptienne, aidée par les forces de sécurité intérieure, fait la guerre aux terroristes.
Mais pourquoi vous dites « officiellement » ?
Eh bien parce que, selon plusieurs ONG, les autorités auraient commis de très nombreuses exactions là-bas contre des populations civiles, et tout cela en toute impunité, explique Émeric Éluin, qui travaille sur la question des armes pour Amnesty International.
La zone est complètement fermée aux journalistes. Il y a un blackout complet, et donc personne n'a accès véritablement à ce qui se passe sur le terrain. Tous ceux qui veulent y avoir accès sont contrôlés. Or, on sait, et on a quand même réussi à documenter, parce qu'il y a toujours de l'information qui sort, que les forces égyptiennes impliquées au Sinaï ont déjà violé le droit international à plusieurs reprises. Nous, on a documenté, par exemple, des vidéos qui montraient l'exécution extrajudiciaire de personnes civiles.
Donc c'est une situation préoccupante, mais quel rapport avec le matériel militaire français ?
Eh bien, dans le cadre de nos recherches, on a découvert que les forces de sécurité égyptiennes utilisaient notamment des véhicules blindés de fabrication française. Il s'agit de véhicules Sherpa, équivalent des Humvees américains. Ces véhicules ont été vendus au moins jusqu'en 2014, alors que la France avait adopté en 2013 une résolution européenne condamnant la répression des manifestants du Caire. Un texte qui prévoyait la suspension des exportations de matériel à l'Égypte pouvant servir à la répression.
Mais ça veut dire que la France n'aurait pas tenu son engagement ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Officiellement, la France vend du matériel destiné uniquement à l'armée égyptienne et pas à la police, qui elle est en première ligne dans la répression. Donc a priori, la France a bien respecté ses engagements. Mais dans les faits, on a trouvé de nombreuses images de véhicules français arborant des plaques de la police égyptienne.
Oui, ce qui veut dire qu'une fois vendu à l'armée égyptienne, on peut penser qu'une partie de ce matériel est transférée à la police.
C'est en tout cas ce qu'on voit clairement dans des vidéos que nous avons analysées, et c'est ce que dénonce Emery Kelluin.
Aujourd'hui, les Égyptiens peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces véhicules. Le dommage, il est irréparable. C'est-à-dire que la France a autorisé l'exportation de véhicules à destination du ministère des Armées, alors que ces véhicules ont été documentés ensuite dans les mains des forces de sécurité. Ils n'ont donc pas pris en compte le risque de détournement. Et ensuite, ils n'ont pas pris en compte le fait que ces véhicules servaient à la répression interne. Et aujourd'hui, on ne peut pas retirer ces véhicules.
Oui, des véhicules qu'on retrouve donc dans le Sinaï. Mais comment la France justifie ça ?
Difficile de le savoir, puisque nos demandes sont restées lettres mortes. Mais ce qui semble évident, c'est que l'Égypte est un partenaire de poids que la France n'a pas intérêt à froisser. Le pays nous a notamment acheté 24 avions Rafale et c'est aujourd'hui un client incontournable, explique la journaliste Anne Poiré, qui a écrit le livre « Mon pays vend des armes ».
L'Égypte, avant François Hollande, était notre 23e client. C'est devenu notre premier client sous François Hollande. Vraiment, l'Égypte est devenue, pour l'industrie de l'armement, un client absolument incontournable. Et effectivement, ce que m'ont expliqué mes sources au ministère des Affaires étrangères, tous m'ont expliqué que l'argument industriel passait avant tout, toutes les considérations politiques et diplomatiques. C'était vraiment, il fallait vendre, et notamment il fallait vendre le Rafale. Voilà, le reste passait derrière. Pour dire les choses de façon plus familière, sur les droits de l'homme, on leur demandait de la fermer.
Oui, donc l'emploi et l'économie d'abord, hein, c'est ce qu'elle nous dit, mais on a quand même senti un léger infléchissement récemment au sommet de l'État, non ?
Oui, en 2017, Emmanuel Macron se refusait, je cite, à donner des leçons à l'Égypte sur la question des droits de l'homme. Mais en janvier dernier, le président français a tout de même évoqué l'emprisonnement de civils, ce qui a quelque peu énervé le président égyptien. Maintenant, les ONG attendent de voir dans les faits si cette politique française est vraiment en train d'évoluer.
Bon, à suivre donc, ça c'était donc pour l'Égypte. Maintenant, il y a un autre pays africain qui utilise du matériel français à des fins discutables, Abdelak, et c'est le Cameroun.
Oui, alors là, ça se passe au nord du pays où les forces spéciales camerounaises interviennent contre Boko Haram, donc contre les terroristes. Mais là encore, plusieurs ONG expliquent qu'au cours de ces interventions, des soldats se livrent à de la torture sur des civils et à des assassinats. Un groupe des forces spéciales camerounaises, le BIR, le bataillon d'intervention rapide, est particulièrement visé par ces accusations. C'est ce qu'explique Ilaria Allegrozzi, qui est spécialiste du Cameroun pour l'ONG Human Rights Watch.
Les forces de sécurité camerounaises, et en particulier les BIR, ont commis énormément d'exactions, ont tué des centaines de civils. Ils les ont arrêtés de manière arbitraire en les accusant de soutenir Boko Haram, souvent sur la base, je dirais, de preuves très limitées, minces, inexistantes. Et ces personnes qui ont été arrêtées ont souvent été placées en détention dans des conditions inhumaines, ont été torturées dans des centres de détention illégaux, notamment des bases du BIR.
Oui, le BIR qui est donc ce groupe d'intervention de l'armée camerounaise. Mais si on parle de ça, et ce qu'il faut préciser, Abdelak, c'est que pour conduire ces opérations, eh bien, ce BIR utilise du matériel militaire français.
Oui, notamment des véhicules dénommés Bastion. 23 engins de ce type ont été livrés au Cameroun en 2015 et en 2016, alors même que les autorités camerounaises étaient déjà mises en cause dans des rapports d'ONG. Et cette situation n'est pas nouvelle. En 2009 déjà, le ministère des Affaires étrangères américain dénonçait notamment les arrestations arbitraires, la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Et malgré cela, donc, la France a continué à vendre du matériel.
Oui, mais Abdelhak, officiellement, la France soutient la lutte contre Boko Haram et contre les terroristes. Donc ça peut aussi expliquer qu'on ait continué à vendre ces véhicules.
Effectivement, dans cette affaire, rien n'est vraiment blanc ou noir. On est dans une zone grise où l'intention de départ peut se comprendre, mais où la réalité sur le terrain pose tout de même question. Et cet aspect zone grise de nos ventes, on le retrouve d'ailleurs dans d'autres pays.
Et où, par exemple ?
Eh bien, dans une autre région d'Afrique, au Sahara occidental. Depuis près de 45 ans maintenant, le Maroc occupe cette zone en expliquant que c'est une région marocaine, alors que d'un point de vue des règles internationales et selon l'ONU, la population sahraoui doit se prononcer sur son indépendance. C'est un conflit à bas bruit, presque oublié, comme le décrit la juriste Hélène Leger, qui a beaucoup travaillé sur le sujet.
Le Sahara occidental, c'est un territoire occupé illégalement par le Maroc depuis 1975. C'est un territoire annexé par le Maroc depuis les tout débuts de l'occupation. Le Maroc a changé la structure administrative, a commencé à changer la culture de ces territoires occupés, qui est le Sahara occidental. Le Maroc y a déployé ses forces militaires, mais aussi sa police, ses fonctionnaires, et surtout, depuis 1975, donc ça fait plus de 40 ans maintenant, que le Maroc colonise ce territoire.
Donc il y a un problème de transfert de population qui occupe la région, mais il y a autre chose.
Oui, alors officiellement, un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 entre le Maroc et le Front Polisario, sous l'égide de l'ONU. Le Maroc ne doit donc rien faire qui puisse envenimer la situation. Mais de fait, il semble s'approprier certaines ressources du territoire, y compris le poisson. Et ça aussi, c'est un problème selon Hélène Leger.
Dans un territoire occupé, qui plus est occupé illégalement par une puissance occupante, la puissance occupante, le Maroc en l'occurrence, n'a pas le droit de piller les ressources du territoire occupé. Alors quand on parle de ressources naturelles, il y a bien évidemment le phosphate, le pétrole, mais il y a aussi les ressources halieutiques. Or, ce qu'on sait, c'est que 90% des poissons qui sont pêchés soi-disant par le Maroc, en tout cas dans les eaux marocaines, sont en fait pêchés dans les eaux sahraouies. Et donc le Maroc, avec la complicité d'États étrangers, se livre depuis des dizaines d'années maintenant au pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui.
D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé en 2016 et 2018 que les accords commerciaux avec le Maroc sur les produits agricoles et la pêche ne concernaient pas les produits issus du Sahara occidental. Selon cette décision, donc, le Maroc ne peut pas considérer que ses eaux font partie de son territoire.
Bon, mais en quoi la France est concernée, là ?
Eh bien, en 2015 et en 2016, l'armée marocaine a passé commande de plusieurs bateaux à des entreprises françaises. On a retrouvé la trace visuelle de ces navires dans des ports au Sahara occidental, notamment dans le port de Laayoune.
Bon, mais en quoi c'est un problème ?
Eh bien, le problème, c'est que ces bateaux, selon toute vraisemblance, sécurisent de fait une activité de pêche qui peut être qualifiée d'illégale au plan du droit international.
Et la société qui a vendu ces bateaux, elle le savait, ça ?
Alors, elle n'a pas répondu à nos questions. D'ailleurs, aucune ne nous a répondu. On a en revanche reçu une réponse du CIDEF, qui regroupe les professionnels de l'industrie française de défense, et qui nous a dit, je cite, « L'action des industriels s'inscrit dans le strict cadre de la réglementation. Aucune vente de système n'est effectuée sans une autorisation préalable. »
Ouais, ce qui est vrai d'ailleurs, et on en reparlera tout à l'heure, Abdelhak. Mais pour rester sur la question des entreprises, est-ce qu'elles peuvent être tenues pour responsables de l'utilisation du matériel qu'elles vendent ?
Eh bien, elles considèrent que non, et elles estiment qu'on leur fait un mauvais procès. Écoutez ce qu'en dit Arnaud Idiard. Il est consultant dans l'exportation d'armement pour certaines de ces entreprises.
Aujourd'hui, on fait tout un foin autour des industriels, et bon, c'est vrai que c'est plus facile d'aller titiller le lobby militaro-industriel et tout ce qu'on veut, plutôt que d'aller dire au ministre des Affaires étrangères, écoute, cette affaire de respect des droits de l'homme, l'industriel, vous comprenez bien qu'il est pour rien, hein, et il n'a aucun pouvoir. Si quelqu'un a du pouvoir, c'est effectivement le gouvernement, et ça se traite de gouvernement à gouvernement.
Ouais, donc c'est le problème de l'État, pas le nôtre.
Hein. Oui, et l'autre argument qu'il avance, c'est celui de l'emploi dans le secteur de la défense. 200 000 emplois en France, et 400 000 si l'on prend en compte les emplois indirects. Mais pour l'avocate Laurence Greg, ses arguments sont un peu courts. Elle estime que, juridiquement, rien n'empêche de poursuivre des entreprises si elles vendent en connaissance de cause du matériel qui est utilisé en violation des droits de l'homme.
Un industriel qui serait aujourd'hui renvoyé devant un tribunal en France et qui dirait mais écoutez, moi, mon entreprise a généré tant d'emplois, je répondais à des impératifs de la France, C'est pas du tout quelque chose qui peut être retenu par la justice, ça n'existe pas. Ce qu'on regarde, ça va être la connaissance du risque qu'il prend, et puis d'avoir continué à vendre et éventuellement d'avoir vendu sur certains lieux géographiques particulièrement dangereux.
Oui, dangereux, dit cette avocate. Maintenant, ce que disent les industriels n'est pas faux non plus, Abdelhak. Au final, c'est bien l'État qui donne son feu vert.
Effectivement, toute exportation d'armement se décide au sein d'une commission, la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des armes de guerre. On appelle ça la CIEMJ. Les décisions y sont donc prises au plus haut niveau, confirme Anne Poiré, l'auteur du livre « Mon pays vend des armes ».
La CIEMJ est politique dans le sens où il y a effectivement des représentants des trois ministères qui ont une voix au chapitre délibératif, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, le ministère des Finances, mais il y a évidemment, d'abord c'est sous la responsabilité de Matignon, et puis du Premier ministre, et il y a évidemment un observateur de l'Élysée qui assiste à toutes ces réunions, et évidemment en cas de litige, ça remonte au Premier ministre, et in fine, ça remonte toujours à l'Élysée quand il y a des gros problèmes.
Ouais, donc l'Élysée avalise les gros contrats, et les petits, pas forcément. Mais sur quels critères on décide de vendre ou pas ?
Alors, il est impossible de le savoir car les décisions de la CIEMJ sont couvertes par le secret défense.
D'accord, donc on ne peut pas le savoir. Maintenant, une fois que cette CIEMJ a donné son feu vert, Abdelhak, qui s'occupe du suivi du matériel vendu ?
Eh bien, la fameuse CIEMJ. Si elle constate des manquements graves de la part d'un pays, elle peut interdire une vente, mais seulement une vente à venir. Elle ne peut donc rien faire pour les armes déjà livrées. Maintenant, en dehors de cette commission, il n'existe aucun contrôle, et c'est ce que regrette Sébastien Nadeau, ex-député de La République En Marche.
On peut éventuellement parler d'une évaluation interne à l'intérieur des services français, mais le contrôle, le minimum, ce serait quand même que ce soit des personnes extérieures qui l'effectuent. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun contrôle du pouvoir sur la question des ventes d'armes en France.
Et le député aimerait qu'on s'inspire de nos voisins européens qui ont des systèmes de contrôle assez poussés.
Par exemple ?
Eh bien, au Royaume-Uni, il existe une commission parlementaire chargée de contrôler l'exportation des armes. En Suède, ce sont les parlementaires qui décident ou non d'autoriser la vente de matériel de guerre à l'étranger.
Oui, mais si le sujet est si sensible en France, c'est certes parce que l'intérêt de la France peut se heurter à la question des droits de l'homme. Mais c'est aussi parce que l'exportation des armes, finalement, c'est un enjeu de souveraineté.
Oui, derrière la vente d'armes, il y a effectivement la question de notre capacité à nous équiper avec nos propres matériels. Et c'est aussi pour ça qu'on vend. La doctrine française peut se résumer comme ça. Plus on vend des armes à l'étranger, mieux nos entreprises se portent et elles nous garantissent une indépendance militaire. Mais cette logique de vendre à tout prix peut aussi avoir un revers, souligne Lucie Béraud-Sudreau, qui est chercheuse en économie de défense.
C'est un peu le paradoxe des ventes d'armes, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre pour soutenir notre industrie d'armement domestique et de cette façon-là être indépendant de fournisseurs extérieurs. C'est un objectif de souveraineté nationale qui s'entend tout à fait. Mais ce faisant, si on devient dépendant de certains marchés, de certains acteurs, dont les monarchies du Golfe, dont certaines dictatures effectivement au Moyen-Orient, est-ce qu'on ne va pas là à l'encontre de cet objectif d'indépendance ? Donc finalement, tant qu'à devenir interdépendant d'autres États, pourquoi ne pas plutôt renforcer notre interdépendance avec les pays européens, en priorité, plutôt que des pays où les relations vont être plus compliquées à long terme en tout cas.
Et ce mouvement semble d'ailleurs déjà être enclenché puisque nos voisins de l'Union européenne représentent désormais 25% de nos exportations d'armes contre seulement 10% ces dernières années.
Et c'est sur ces chiffres qu'on va vous quitter, Abdelhak El Idrissi. Merci donc pour toutes ces informations. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF.
France Inter, secret d'info. Jacques Monin.
Et tout autre chose, maintenant, nous recevons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors on va reprendre avec vous nos bonnes habitudes et répondre une fois par mois aux questions ou aux critiques d'ailleurs que formulent les auditeurs sur nos enquêtes. Pour ce mois-ci, donc, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Eh bien, on commence avec les machines de prélèvement de plasma suspectées de faire courir un risque toxique aux donneurs. Ces machines sont suspendues d'utilisation en France depuis un an. Les auditeurs ont bien sûr réagi à votre enquête. Je vous lis ici des extrait de deux courriels. « Je suis donneur depuis l'âge de 18 ans. Je suis effondré et profondément choqué. Ce qui est révélé dans votre enquête est d'une extrême gravité. J'espère que la justice passera. Je viens d'écrire à Madame la ministre de la Santé en ce sens. Bravo et merci à Sylvain Tronchet et votre équipe pour ce dossier. » Un autre message pour Sylvain Tronchet. Olivier écrit « Je voulais vous remercier pour la qualité de vos informations et pour ce reportage. Je ne sais pas si je vais arrêter de donner mon plasma ou non. Les malades en ont besoin, mais je refuse que ce soit en prenant des risques. » Ce message, justement, me permet de faire la transition avec celui de Loïc qui, lui, va encore plus loin. Notre auditeur se demande si en diffusant ce type d'enquête, Jacques Monin, vous ne risquez pas de faire peur tout simplement aux donneurs. Voici son mail. Les médias font beaucoup de mal. Vous faites en sorte qu'il y ait moins de donneurs. Les répercussions sont telles que les gens n'iront plus donner leur sang, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que les choses peuvent s'arranger sans que les journalistes mettent leur tête dedans et fassent peur à tout le monde. Jacques Monin, que répondez-vous à cette critique?
Alors on va y répondre, Sylvain va y répondre d'ailleurs, puisque c'est lui qui avait travaillé sur cette enquête. On va quand même peut-être juste rappeler en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'une entreprise qui d'une part faisait passer des pièces détachées usagées pour des pièces neuves et qui d'autre part fournissait des machines qui libéraient dans le plasma des particules sur lesquelles il n'y a pas eu de véritable enquête sérieuse et dont on se demande s'il n'y a pas effectivement des éléments toxiques, des éléments cancérigènes à l'intérieur. Donc on ne parle pas d'un petit sujet quand même. Maintenant, Sylvain, évidemment cette question, on se l'est posée, alors quelle réponse vous pouvez apporter à notre auditeur?
Oui, on se l'est posée parce qu'effectivement, en l'absence de preuves formelles du risque couru par les donneurs, on s'est demandé plusieurs fois si on n'était pas trop anxiogène ou si on ne risquait pas effectivement à un moment de déséquilibrer un système fragile qui est le système français, qui est très vertueux parce qu'il est basé sur le bénévolat des donneurs, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays. Ceci dit, l'enquête a permis de montrer, un, qu'il a fallu 10 ans pour prendre en compte un problème, que deux, les autorités sanitaires, au moins à 2 reprises, n'ont pas suivi l'avis des experts. Et quand je dis des experts, ce sont les experts qu'eux-mêmes avaient désignés et ont continué, ont perduré dans une situation qui les a quelque part conduits dans un mur, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés eux-mêmes, c'est pas nous qui avons provoqué ça, de retirer les machines par principe de précaution. Notre enquête a aussi montré que l'établissement français du sang avait une gestion assez légère des dérives avérées de l'un de ses fournisseurs. Je comprends que ça puisse être inquiétant, peut-être décourageant pour ces donneurs qui sont bénévoles, mais toutes ces informations, elles nous semblaient être d'intérêt général. C'est toujours ce qui guide finalement le fil de nos enquêtes et par conséquent qu'elles méritaient d'être publiées.
Et puis on peut raisonner à l'envers. Imaginez que demain, par exemple, on se rende compte que ce qui s'est passé pendant ces années a eu des conséquences sur la santé des patients et qu'on apprenne ensuite que nous le savions et que nous ne l'avions pas dit. Autre chose, Emmanuel?
Oui, alors la seconde question concerne votre enquête sur François Bayrou et Marielle de Sarnez. La police anticorruption a accumulé les indices accréditant un possible détournement d'argent public et un auditeur est surpris par ces informations. Il nous écrit « Si la justice avait autant de preuves que vous voulez bien nous dire, il est étonnant que personne n'ait été mis en examen jusqu'à présent, contrairement à Richard Ferrand. »
Alors attention, on n'a jamais dit qu'il existait des preuves. À ce stade, on a fait état des éléments de l'enquête parce qu'il nous semblait que c'était d'intérêt général. Ça concerne de l'argent public et donc à ce titre-là, il nous semblait légitime de faire état de ce qu'il y avait dans le dossier et d'expliquer pourquoi le soupçon prospère aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole, donc Élodie Guéguin. Qu'est-ce qui explique qu'il y a une différence, disons, de traitement entre l'une et l'autre affaire?
Alors, c'est que l'affaire Ferrand, elle est assez simple, finalement, sur le papier. On est sur une affaire présumée de prise illégale d'intérêt, un dossier dans lequel il y a assez peu de protagonistes, de personnes à entendre. L'affaire du Modem, ce n'est pas comparable. On a des enquêteurs qui, aujourd'hui, essayent de voir s'il n'y a pas eu un système d'emploi fictif au sein d'un parti politique, quelque chose de généralisé sur plusieurs mandatures. Donc, il y a énormément de monde à entendre. Il y a d'anciens assistants parlementaires, des députés européens, il y a les responsables du parti politique. Ce sont des enquêtes qui sont longues, ce sont des enquêtes qui sont complexes. Et s'il fallait comparer avec un autre dossier, on comparerait avec celui des assistants parlementaires du RN, du Rassemblement National. C'est une enquête qui avait commencé bien avant celle du Modem et on voit que la semaine dernière, Jean-Marie Le Pen a été mis en examen. Il a fallu des années de procédure avant que la mise en examen d'un responsable politique intervienne. Donc voilà, je pense que ce ne sont pas deux affaires qui sont comparables.
Et puis la justice a peu de moyens, et quand on a peu de moyens, on met du temps. Et ça, c'est un peu un classique. On en reste là, Emmanuel ?
Oui, on en reste là pour aujourd'hui. J'invite tous les auditeurs qui veulent réagir à vos enquêtes pour nous dire tout ce qu'ils en pensent, à nous écrire sur le site de la médiatrice de Radio France.
Et puis surtout, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va parler de cette histoire incroyable, de cette syndicaliste d'Areva qu'on a accusée de s'être agressée et mutilée elle-même. Un fait divers qui s'est déroulé sur fond de guerre entre Areva et EDF. C'est du bon blues rock bien américain, c'était Sit Around and Miss You, extrait du dernier album des Black Keys, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Let's Rock.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Caroline Michel-Aguirre, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Syndicaliste, c'est un livre qui revient sur l'histoire assez étrange, assez incroyable, de Maureen Kearney, qui est une haute responsable syndicale d'Areva, qu'on a retrouvée chez elle, ligotée, mutilée en décembre 2012, et qu'on a ensuite accusée d'avoir simulé son agression. Alors d'abord, rappelez-nous en quelques mots, qui était Maureen Kearney? C'était une toute proche d'Anne Lauvergeon, de Bernard Cazeneuve aussi, à une certaine époque, d'Arnaud Montebourg. Qui était-elle?
Maureen Kearney était la secrétaire du comité de groupe européen d'Areva. Ça veut dire qu'elle était la porte-voix des 45 000 salariés qu'Areva avait à l'époque. Et depuis plusieurs années, Maureen Kearney était donc l'alter ego syndical du président d'Areva, qui était une présidente Anne Lauvergeon, puis Lou Courcel qui l'a remplacée en juin 2011.
Et elle s'entendait très bien avec Anne Lauvergeon. Hein. Parce qu'il faut préciser que cette histoire s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de guerre entre Areva et EDF.
Oui, c'est une guerre économique très violente entre les deux fers de lance du nucléaire français. Et derrière cette guerre économique, en vérité, il y a une guerre politique. Parce que Anne Lauvergeon, elle a un réseau de gauche. Et EDF, à l'époque où Nicolas Sarkozy est président de la République, il place à la tête d'EDF quelqu'un qui lui est très proche, c'est Henri Proglion. Donc, il y a deux étages à cette guerre.
Ouais. Une guerre qui se déroule sur un dossier particulier, qui est celui d'un accord qu'EDF voudrait passer avec les Chinois et qui impliquerait un transfert de technologie. Ça, c'est le projet d'EDF. Areva n'en veut pas et Maureen Kearney n'en veut pas.
Oui, il y a eu un basculement de stratégie et les salariés sont très inquiets. Anne Nouvergeon, à l'époque où elle présidait Areva, refusait ce genre d'accord qui était que nous, on n'a pas d'argent, les Chinois ont de l'argent et un marché, on va leur donner un peu de notre technologie et comme ça, on aura le marché et l'argent. Anne Nouvergeon était contre ce calcul. Elle le trouvait trop dangereux. Luc Courcel, qui la remplace, lui, il est pour. Comme le gouvernement, Claude Guéant, Henri Proglio à la suite et Nicolas Sarkozy. Et Maureen Kernel s'en inquiète. J'ai rencontré plein de cadres, des très hauts cadres qui utilisaient Maureen Kernel comme chambre d'écho de cette inquiétude-là et les plus hauts ingénieurs d'Areva étaient persuadés que les Chinois étaient en train de piller leur technologie, ce qu'ils considéraient être un actif très important de la souveraineté aussi française, parce que le nucléaire, c'est aussi une histoire de souveraineté.
Et ça va être le combat de sa vie, hein, Maureen Kearney, c'est-à-dire qu'elle va se battre contre cet hypothétique accord avec les Chinois, et elle devient la bête noire d'Henri Proglio, puis de Luc Courcel, qui va remplacer Anne Nouvergeon à la tête d'Areva.
Ça se cristallise, en effet, entre elle, qui parle toujours au nom de tous les salariés à l'intérieur d'Areva, l'inquiétude grandit et la direction qui se crispe et qui ne veut pas de transparence, qui dit nous n'avons pas à rendre compte, nous savons ce que nous faisons, faites-nous confiance.
Alors, on en arrive au fait. Un matin, on retrouve Maureen Kearney chez elle. Elle a un manche de couteau enfoncé dans le vagin.
Ouais.
Elle a une espèce de A scarifié sur son ventre. Elle est traumatisée. Et là, problème, la police ne trouve finalement aucun élément probant qui accrédite la thèse de l'agression.
Oui, tout de suite, quand sa femme de ménage la découvre et quand les gendarmes arrivent, elle dit « cette agression est liée à mon travail ». Parce qu'elle a reçu des menaces téléphoniques quelques semaines auparavant et parce que son agresseur, dit-elle, lui a dit en partant « c'est le deuxième avertissement, il n'y en aura pas de troisième ». Sauf que les gendarmes, eux, ne trouvent pas de preuves objectives de
pas
la présence. Ils disent qu'il n'y a pas d'ADN.
Il y a un scotch avec lequel on lui avait lié les poignets, dont on retrouve un équivalent finalement dans le matériel de son mari. Du coup, il y a une suspicion aussi qui s'installe. Elle aurait pu utiliser son propre scotch pour se scotcher les poignets.
Oui, les gendarmes font une liste d'éléments qui leur paraissent objectifs, faisant qu'ils ne croient pas à la version donnée par Maureen Kearney. Dans la remise, ils trouvent un scotch qui ressemble à celui qui a servi à ligoter Maureen Kearney. Ils en concluent non pas que l'agresseur a pu amener le même, mais que c'est elle-même qui sûrement a mis en scène. Et puis, au niveau des expertises médicales, il y a un expert qui dit le couteau dans le vagin, il aurait dû être expulsé naturellement au bout de 5 heures, sauf état de sidération.
Et ensuite, vous racontez, alors je passe les détails, hein, tout est dans votre livre, il y en a énormément, mais donc elle passe dans une espèce de broyeuse psychologique,
ouais,
qui aboutit au premier procès qui la condamne.
Il s'est passé 4 ans quand même, dont j'ai découvert, moi, en enquêtant, qu'il n'avait rien apporté de nouveau, pas d'éléments objectifs, pas de reconstitution qui pourrait prouver qu'elle aurait pu, dans les conditions décrites, c'est-à-dire un bonnet sur la tête, ligoté, les pieds attachés, un couteau dans le vagin, ensuite s'attacher les mains dans le dos avec une épaule dont on apprendra
plus tard qu'elle était
démise.
Mais ça, il faut le préciser, parce qu'il y a quand même deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'ADN. Mais en fait, les analyses ADN ont disparu et n'ont pas été versées au dossier.
Absolument.
Et ensuite, on se rend compte qu'effectivement, elle avait un problème à l'épaule qui faisait qu'elle aurait été incapable de s'attacher elle-même, de se ligoter elle-même avec ce scotch, les mains dans le dos. Et ça, ce sont des éléments qui vont devenir déterminants.
Oui, parce que cette histoire d'ADN, il n'y a jamais eu de retour des analyses d'ADN, soit qu'ils aient disparu, soit qu'ils aient été égarés. L'autre chose que j'ai découverte en enquêtant, c'était en effet tous ces manquements dans enquête, et c'est aussi les pistes qui avaient été délaissées au motif qu'on était persuadé qu'elle avait inventé son agression.
Et le résultat, c'est qu'on ne saura pas ce qui s'est passé, mais elle sera relaxée en appel. Mais vous évoquez quand même un autre fait divers, un précédent qui est quand même très troublant. Vous avez découvert qu'il y avait une autre agression du même type qui avait eu lieu sur la femme d'un cadre de Veolia, cette fois-ci, qui s'était lui opposé à l'intermédiaire Alexandre Djoury, qui était un proche de Proglio, qui réclamait 20% pour un marché qui devait être passé avec les pays du Golfe. Et vous avez retrouvé cette femme qui a été agressée, ça s'est passé exactement de la même manière.
Oui, c'est très troublant. Dans les deux cas des deux agressions, le contexte est similaire. Et il y a une chose que j'ai découverte, une piste qui n'a pas été suivie par les gendarmes, c'est que la DRH d'Areva a confié à une représentante syndicale d'Areva, nous pensons que c'est un intermédiaire qui a fait du zèle, parlant de l'agression de Maureen Kearney. Cette directrice des ressources humaines n'a pas été interrogée, et quand on réfléchit en effet aux intermédiaires en arrière-plan de ces grands contrats, les mêmes noms reviennent, même si ça n'est évidemment ni une preuve ni une démonstration, dans l'histoire Areva et dans l'histoire Veolia. Ce qui est fou, c'est que les gendarmes de l'histoire de Maureen Kearney ne sont pas passés loin. Ils ont entendu parler de ce précédent, mais le dossier avait disparu. Moi, j'ai retrouvé cette victime et j'ai découvert qu'il y avait des détails, un mode opératoire extrêmement similaire entre les deux cas, ce qui nous ouvre tout un champ d'interrogation.
Eh ben, on peut espérer qu'un jour on sache. Merci Caroline Michel Aguirre. Alors je précise quand même pour ceux qui voudraient justement le lire, votre livre, il s'intitule La syndicaliste, mais qu'il est surtout édité chez Stock. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Juliette Delperroux et Julien Dumont. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Kérad et la librairie francophone. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.